France Inter.
Qu'est-ce que tu fais?
Mais lâche!
Non! Tu le donne, tu lâches! Donne! Viens là!
Quoi?
Ah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler au chien, tu vois.
Il m'a pris mon poulet!
Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet.
CO2, mon amour.
Excuse-moi, je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà, s'il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous, c'est bien eux. Ou nous. Alors?
Avec Denis Chessou.
Ils sont arrivés sur Terre avant nous, jusqu'à preuve du contraire. Ils étaient là dès le début ou pas? Dès le début, hein?
C'est juste.
Donc, à la limite, toi, demande-lui l'autorisation si tu peux manger avec lui, si tu veux.
Alors, je suis pas sûr qu'il me réponde.
Sur France Inter.
Ah bah voilà, évidemment, nous en tant que sapiens, on est là depuis à peu près 300 000 ans. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec aujourd'hui Vincent Désir à la technique. Notre collaboratrice, c'est toujours Camille Blanès, et cette semaine, c'est Andréa Lechêne qui réalise l'émission. Et qui commence par une petite humeur. Bon sang, encore une journée mondiale de la Terre demain lundi. Ah là là, mais quand vont-ils vraiment se rendre compte? Un jour, vous aurez tellement réussi votre coup, les sapiens, que vous disparaîtrez et laisserez la place à d'autres animaux qui ne voudront pas dominer le monde, parce qu'ils vous auront observé. Et ils seront évidemment un peu plus calmes. Alors oui, journée de la Terre, alors que tous les jours, c'est la fête mondiale des pesticides, du gâchis de l'eau, du gaspillage alimentaire, de la voiture électrique qui va sauver le monde, du smartphone greffé au cerveau. Fête du cassage de gueule de la nature, de l'arrachage des haies, du déprofundis pour les abeilles, des linéaires d'aliments pour chats, des glaciers qui fondent, de l'éco-anxiété, des bêtes sauvages qu'on tue, la fête du marché, dernière croyance de l'Occident, oui on y croit encore, du détricotage de l'ambition environnementale de l'Europe, des milliards d'animaux consommés, des algues vertes et de l'omerta agricole en Bretagne. Alors, moi, la Terre, j'aime la vie, vous le savez, je la fabrique pour tous. Je suis vivante et aime les non-vivants, sans doute bien plus que d'autres parmi vous. Alors, je suis au milieu de mes autres copines planètes qui, elles, quand même, sont sans vie. Ah ouais, vous avez de la chance. J'ai un cœur de fer et de nickel, puis un manteau jeté sur les épaules de mon noyau, et enfin une jolie petite croûte terrestre que vous piétinez, perforez, défoncez avec un talent exceptionnel. Et j'ai une gueule d'atmosphère, oh bah oui, du CO2 bien utile, cette pellicule d'œuf, les sols, les forêts pas encore rasées, les mers et les poissons que vous aurez laissés, tout ça vous fait vivre, respirer, boire, chanter et même gravement déconner, mais en êtes-vous conscient? Alors oui, fêtez-moi, soyez à l'aise, faites de la communication écologique à tous les étages et vraiment, faites-vous plaise, oui. Mais sur le terrain, il y a des gens qui agissent, comme mon ami Jean-Marie Gilardeau, que nous avons enciélé, lundi dernier dans son marais de brouage. Et cet homme était une respiration de cette terre mariée à l'eau. C'était un enfant du marais. Et autour de cette table de plus de 11 000 hectares, t'as réussi à réunir des éleveurs, des chasseurs, des agriculteurs, des naturalistes, des politiques, des pêcheurs, des hydrologues, l'agence de l'eau Adour-Garonne, des individualistes, des faiseurs de biens, des chacun pour sa pomme, des amoureux, des artistes et même des ragondins. Alors il s'agissait de garder l'essentiel, la fonctionnalité du marais et son âme, qui est aussi celle de ton enfance. Le professeur d'université de Poitiers de droit rural et foncier a refait du collectif autour de ce joyau, de ce paysage. Et ta cabane est devenue un lieu de dialogue, une agora, un forum. Et on entendait le marais penser. Tu créais du lien et tu maillais le territoire. Tu savais que la beauté n'existe pas dans un tableau Excel. Alors oui, tu étais l'homme du bien commun, de l'intérêt général, de l'écoute, des dossiers précis et de la parole donnée. Tu étais très respecté. Curer les fossés, certes, mais curer aussi nos cerveaux, pour relier au vivant ce qui ne voit dans une zone humide qu'un espace productif ou de loisirs. alors que le marais est une des meilleures assurances vie face au chaos du monde. Moi, j'ai eu beaucoup de chance hein, avec mes Jean-Marie. Et ouais, j'en ai eu deux, à jamais gravés dans ma vie. Et toi aussi, tu aimais Jean-Marie Pelt, compagnon de cœur de 30 ans. Et puis en janvier 2017, avec toi, Jean-Marie Gilardot, ce fut un coup de foudre d'amitié incroyable. Te connaître, c'était aimer immédiatement. Tu as fabriqué et sauvé ce vivant qui t'a vu naître. Oh, t'étais pas de grande taille. Ce qui était bien pratique, me disais-tu. Car les jours de tempête, le vent ne t'attrapait pas par la peau du cul. Mais tu étais un grand homme. Et tu l'es toujours. Quand de battre ton cœur s'est arrêté, de chenaux en roseaux, d'écluses en canaux, dans une traînée d'eau, tout le marais a su. En pensant à toi en volant, les cigognes, le busard, les hérons, les libellules ont continué leur danse de printemps. Alors oui, lundi 8 avril, le marais a retenu son souffle en apprenant la nouvelle. Il a retenu ton souffle, le dernier, qu'il a fait sien pour se nourrir de toi à jamais et toujours pouvoir respirer demain. Jean-Marie Gilardot, vous pouvez le retrouver dans deux émissions, donc un podcast de CO2 Mon Amour en 2017 et 2019. Pointure juridique, donc légalisme est tout à fait innovant sans attendre qu'un gouvernement décide à votre place. Et parce qu'il savait très bien que les idées en fait partaient le plus souvent du terrain. Le Perche, donc, avec le Parc Naturel Régional, nous attendent Denis Guillemin, Stéphane Bern et même un percheron. Pas désagréable du tout, hein, choisi par Thierry Dupin, Maxwell Farrington et le super Omar, que l'on trouve d'ailleurs très très peu dans le parc naturel régional du Perche.
Le Perche, je dirais que c'est d'abord un pays de contes, de croyances et de légendes aussi, qui puisent ses racines, son histoire, dans l'eau vive, dans les grandes forêts, les sources. Les nombreuses sources qui alimentent notre ancienne province, effectivement, et qui en ont fait en quelque sorte son entité, qui puise ses racines dans ce sous-sol local riche, parce que le Perche est né de cette rencontre de deux climats, de deux régions, le massif armoricain d'un côté, le bassin parisien de l'autre. Et de ce choc, en quelque sorte, de ces plaques, eh bien, est né un certain chahut qui a remué les veines du sous-sol local et qui trouve aujourd'hui cette palette d'expression minérale à travers les différents enduits, ces différentes veines qui créent ces différentes nuances d'ocre, de jaune et qui donnent toute cette personnalité, ce caractère à nos paysages et à notre bâti local.
De jolis mots de Denis Guillemin, qui est le directeur du parc naturel régional donc du Perche. Bienvenue donc dans ce pays encore bocager, hein, où toutes les haies n'ont pas été défoncées, mais enfin il a quand même pris cher à certains endroits. Autrefois entre Royaume de France et Duché de Normandie, ben nous sommes quand même toujours en territoire féodal, un territoire de blason, avec un enjeu qui était stratégique lors de la guerre de Cent Ans. Donc ce coin est ressorti exsangue, comme dans d'autres coins d'ailleurs aussi de France. Et donc après, il y a eu la Renaissance, une floraison de manoirs dans différents matériaux, c'est très très joli. La Révolution arrive, la Constituante démembre cette province du royaume en 4 départements. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le parc naturel régional du Perche, 98 communes, qui structure l'identité des lieux en épousant donc une bonne partie de l'ancienne région du Perche, tout en gardant sa culture qui se transmet de façon, je dirais, à la fois consciente, mais aussi très très inconsciente. Nous allons partir là tout d'abord à Thiron-Gardais. Oui, alors on n'est pas très très loin de Nogent-le-Rotrou, notre forêt de Belém est un peu plus haut. Et pourquoi là-bas, à Thiron-Gardais ? Eh bien, parce que nous allons à la rencontre d'un jeune élu municipal, homme du patrimoine, qui aime les vieilles pierres, mais aussi le patrimoine naturel, et qui s'appelle Stéphane Bern. Et oui, exit Paris, et hop, compagnons, chiens, poules, les mugs, les magnettes royaux, tout le monde maintenant est là. Alors, pour tout dire, on ne s'était pas revu depuis 20 ans. Mais tu n'as pas changé, mais toi non plus. Mais oui, on n'y croyait pas une seconde, mais on est très très polis. Bon, bref, Stéphane Bern, il aime le Perche, la preuve.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Denis.
Lorsque l'on parle du Perche, comment on pourrait définir, on va dire, cette région, bon, qui est à cheval sur différents départements ?
Trois départements, trois régions, l'Eure-et-Loire, l'Orne et la Sarthe. Trois régions donc, principalement la Normandie, mais aussi la région Centre-Val-de-Loire, ici en Eure-et-Loire. Et puis la Sarthe, c'est dans les pays de la Loire. Il y a le parc régional naturel du Perche qui nous unit tous. Mais c'est une région où la nature est prédominante. Pertica, Perche, on a appelé cette région parce que les arbres semblaient des perches. Il faut imaginer qu'ici, il n'y avait que des forêts. C'était couvert de forêts. Et que les premiers habitants, les premiers moines, ont travaillé principalement ici. On est dans une abbaye. La principale activité des moines, c'était de défricher.
On est sartais.
Eh oui, exactement. Et alors, pour pouvoir cultiver, pouvoir se nourrir. Et donc, la nature est omniprésente. Alors, bon, il y a les chiens.
Oui, ça va, oui. Ils s'engueulent un peu.
Scoop ! Tais-toi ! Ah, il court après les oiseaux. Il ne les rattrapera jamais, mais
non, bon. Non. Mais ça lui fait plaisir parce qu'il a des petites pattes. Donc voilà.
Vous avez remarqué, plus petits sont les chiens, plus ils galopent. Plus ils galopent et plus ils aboient fort.
Ah, non, c'est pas pour moi, c'est pour mon chien. Alors, bien dégagé derrière et les oreilles comme d'habitude.
Le Perche est une région agricole et une région très très verte. Évidemment, les gens découvrent cette région, mais surtout c'est la campagne à 1h30 de Paris.
Et non, il faut pas le dire trop.
Il faut pas trop le dire. Mais vous savez, il y a plein de Parisiens qui s'installent là, et je pense que la Covid a ramené les gens vers la campagne. Oui. Je pense que vivre en harmonie avec les saisons, moi ça a changé ma vie. Parce que tout d'un coup, vous prenez le temps de vivre, vous regardez les arbres vivre, vous regardez, là vous voyez, je me promène le matin ici dans le jardin qui est pas énorme, mais la semaine dernière j'avais les genêts qui étaient en fleurs, là maintenant ça y est, les fleurs sont parties et j'ai les feuilles qui poussent. Je trouve formidable de pouvoir tout d'un coup se dire que on se sent vivant parce que les plantes autour de nous sont vivantes.
Là, nous sommes dans les jardins.
Vous entendez les oiseaux, vous entendez, et puis vous sentez les... C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ce jardin soit vivant tout le temps, toute l'année, qui est toujours plein de surprises, plein de... Et il est très facile à entretenir parce que tout est paillé, on économise l'eau, on dépense très très peu d'eau. C'est sur 1 hectare, vous avez toutes sortes de jardins. Là, c'est un jardin à la française. Ah oui. Ici, c'est le paradis des animaux aussi. Oui. J'ai beaucoup d'animaux parce que j'aime qu'ils se sentent bien, comme nous. Vous avez un sous-bois, vous avez un potager, en permaculture évidemment, qui est là derrière. Ouais. Un verger avec des arbres fruitiers. On a même des pommiers qui datent d'avant la Révolution française. Il y en a 4 que j'ai conservés vraiment dans leur état. Ils donnent quelques pommes encore. Et puis, il y a un jardin 19e en hommage au précédent propriétaire qui était André Guillaumin, qui était directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Alors, il avait voyagé partout dans le monde, notamment en Nouvelle-Calédonie, importé des espèces végétales qu'il avait plantées un peu dans le jardin à la française. Je les ai déplacées pour que le public s'y retrouve aussi, parce que nous, on a beaucoup d'ateliers dans les jardins, on fait en sorte que le public apprenne. Et moi-même, j'étais le premier à apprendre, parce que j'ai été citadin pendant les 50 premières années de ma vie. Et puis,
Lyonnais et parisien.
Lyonnais, parisien, voilà, toutes sortes de choses. Et puis tout d'un coup, je découvre que moi, j'ai envie de me retirer. La Covid m'a marqué en me disant, tant qu'à être enfermé, autant être enfermé à la campagne et vivre un peu en autarcie, c'est-à-dire à profiter des produits. Et c'est ce que je fais maintenant. Ça, c'est quelque chose de très important. Et puis surtout, vous nourrissez de choses que vous avez plantées. Et vous savez comment vous les avez plantées. Avec quoi ? C'est-à-dire que je ne mets pas de pesticides, je ne mets rien qui puisse m'empoisonner. Ça ne m'empêchera peut-être pas de mourir, hein, plante, comme dirait l'autre. C'est... Mais peut-être le plus long, à Dieu ne plaise, le plus longtemps possible sur Terre. Mais on se nourrit de tellement de saloperies maintenant. On congèle, on garde, on fait des confitures, on fait des pots, quoi. Ouais. On vit comme on vivait avant, cette société de folie, de toujours courir plus vite, vers plus. Je ne dis pas que c'est la décroissance, mais il faut un développement durable, y compris pour l'être humain, pas seulement pour la nature. Oui, oui. Il faut quelque chose. Qui veut aller loin ménage sa monture, disait autrefois.
Ménage son percheron.
Oui, ménage son percheron. Et je suis comme un gros percheron. Oui. Je ménage ma monture, je fais attention, j'essaye de... C'est pour ça que vivre ici à la campagne, on rééquilibre sa vie. Ouais. Cette nature nous donne tellement et nous, l'être humain, est souvent très ingrat, en fait.
Ouais, c'est ça qu'il a oublié d'où il vient. Hein. C'est surtout ça.
Je pense qu'on a fait en sorte de nous faire quitter la campagne, d'aller nous entasser dans les périphéries des villes où on a perdu nos racines, on a perdu notre âme. C'est comme un arbre dont vous coupez les racines. On ne sait plus d'où on vient. Et donc, je pense que les êtres humains qui sont coupés de leurs racines ne savent plus non plus où ils vont. Et c'est la raison, ce qui explique beaucoup de burn-out, ce qui explique beaucoup de toutes ces maladies modernes, la dépression. Je ne peux pas avoir de dépression quand je vois ça, non. Si vous voulez. Regardez, les marguerites commencent à pousser partout, les primes verts aussi. Je vois mon jardin éclore. Ouais. C'est la vie qui me sourit. C'est la vie qui tout d'un coup me dit, regarde, je bourgeonne, c'est le printemps qui arrive. C'est pour ça qu'on ne peut pas être en dépression quand on est dans un jardin.
C'est beau. Que c'est beau.
Si je n'ai plus mon arbre en face de moi tous les matins, je partirai, je ne pourrai plus vivre ici. Je partirai, quoi. Je crie, je sais. Mais si les gens sont sourds, il faut bien le dire en hurlant.
Mais tu cries dans le vide.
Mais où veux-tu que je crie ?
Je ne sais pas ici. D'ailleurs, c'est pas crier qu'il faut, c'est agir.
Alors c'est assez formidable parce qu'ici, vous êtes en train de fabriquer en fait de nouvelles racines. Donc à l'ombre, je devrais plutôt dire à la lumière.
À la lumière de cette église abbatiale. Vous savez, des racines, je trouve que l'homme a cette capacité de refaire des racines partout.
Ouais.
C'est-à-dire que je suis comme une mauvaise herbe. Moi, je repousse. On me met quelque part. En fait, je me sens percheron maintenant. Je suis venu ici pour les vieilles pierres et je crois que je vais rester à la fois pour la nature et pour les gens. Et je crois que c'est bien. Et c'est la raison de mon engagement aussi, comme conseiller municipal, sans étiquette, sans rien, mais simplement pour aider les gens. L'idée d'être solidaire. Et je trouve qu'à la campagne, on est solidaire avec les autres. On se parle. Vous voyez, ce matin, j'ai été faire mes courses dans le village, à pied, évidemment. Ouais, oui. Ça m'agace de voir les gens prendre leur voiture pour aller à la boulangerie. Mais enfin, bon, ça, c'est. Je ferme la parenthèse. Et alors, on dit bonjour aux gens, il y a une solidarité. On ne meurt pas seul à la campagne. Autant dans les villes, on peut mourir seul. Regardez, vous lisez la page des faits divers, vous trouvez des gens qu'on a retrouvés chez eux morts des semaines plus tard, parce que c'est l'anonymat des grandes villes. Ici, tout le monde se connaît, on se parle, on se raconte nos histoires. Alors, on est plus ou moins intéressé, mais c'est sympathique. Il y a une solidarité, on n'est pas anonyme. Alors, évidemment, moi, de toute façon, je sais ce que... je ne suis pas vraiment anonyme.
Faut pas dire.
Mais les gens me parlent normalement ici.
Oui, c'est ça.
Vous savez, on ne me demande jamais une photo dans le village. La notoriété, ils s'en fichent, ça ne se mange pas en salade, vous voyez. Donc, ce qu'ils veulent, c'est simplement...
Quelqu'un de normal, quoi.
Oui, quelqu'un de normal, il est comme nous. Ça y est, en plus de 10 ans, ils ont compris.
Oui.
Et donc, et puis les gens savent que le jardin est ouvert, qu'ils peuvent... C'est ouvert à la visite. Alors, vous voyez, là, vous êtes dans l'endroit le plus ordonné, n'est-ce pas ? Mais il y a un endroit tout à fait désordonné
fouille,
où j'aime me
normal,
promener.
Ça s'appelle la vie, c'est là.
Ça s'appelle un sous-bois.
Et, ben voilà.
Et ce sous-bois avec des hêtres, des chênes. Et j'ai planté, moi, des charmes aussi, qui ne poussent pas très bien, parce que les hêtres et les chênes prennent toute la lumière.
Ouais, bien sûr.
Et c'est Louis Bénèche qui a un peu remis en ordre ce jardin, un célèbre paysagiste, très bon botaniste. Et un jour, le jour où il est arrivé ici, il me dit « Quel est le con qui a enlevé tous les houx ?» c'est moi, Louis, c'est moi. Le... Oui, mais t'es con. Oui, voilà, il m'a dit. Pourquoi t'as... Je...
Parce que ça pique.
Parce que ça pique, je hais le houx. Je trouve ça moche. Mais il y a des très jolis houx.
C'est un peu primaire, mais on ne vous en veut pas. Hein.
Et alors, j'ai coupé un certain nombre de houx.
Oui.
Bon, vite, j'ai laissé. Puis il y a une chose que je trouve merveilleuse. C'est quand vous promenez dans votre jardin et vous voyez des espèces endémiques. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous n'avez rien. Les petits oiseaux ont jeté une graine, puis il y a un arbre qui pousse. Vous n'avez pas comment. Ah non, ce n'est pas moi qui l'ai planté, celui-là. Mais j'ai planté 1600 arbres quand même. Ouais. 1600 plantes. Et je trouve ça merveilleux.
Les oiseaux, 3000, justement.
Oui, et oui c'est ça. On dit que ce qu'il faut dans la vie, c'est planter un arbre. Et je suis très fier d'avoir planté des arbres, parce que vous entendez tous ces oiseaux qui sont là autour de nous, toute cette vie qui... cette nature me rend euphorique, en fait.
Alors, on se dit vive le Perche, hein, pour se quitter, c'est ça ?
Oui, vive le Perche, franchement. C'est l'une des plus belles régions
oui,
de France.
Oui, c'est ça qu'il faut dire. Il faut dire, c'est une des, comme ça vous
une
êtes tranquille.
Une des, ben, je suis tranquille. Il y a certains, d'autres.
Sûr, oui,
il y a à la fois le patrimoine bâti, mais tout aussi important, le patrimoine naturel.
Oui.
Et le patrimoine naturel, c'est aussi les paysages. Et c'est la défense de cette nature qui nous donne tant et avec laquelle on se montre tellement ingrat.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, cher Stéphane Bern ?
D'être comme un arbre, de vieillir avec en ayant de bonnes racines, de vieillir en faisant de jeunes pousses. Les jeunes pousses,
et en bourgeonnant toujours.
Oui, et vous savez, ce qui est important ici, c'est un collège, c'est pas un château.
Ah oui.
Et donc, pour moi, c'est très important. Un collège, c'est la transmission. C'est pas la possession, ni la gloire et la puissance. On transmet aux autres. C'est la raison pour laquelle on accueille beaucoup d'écoles ici. On fait ce qu'on appelle les vacances apprenantes. On leur enseigne des choses au jardin, on leur enseigne l'amour du patrimoine et on les initie à la fois au patrimoine et à la botanique, puisque ce collège était réputé pour... Le premier prix qu'on donnait, c'était un prix, un greffon des arbres fruitiers. C'est quoi le greffon des arbres fruitiers ? Eh bien, on repartait avec la connaissance, et la connaissance qu'on allait replanter chez soi. Et ça, je trouve que c'est une belle image que j'essaye de faire perdurer. Donc voilà, c'est la transmission. Pour moi, c'est ça qui est important, transmettre aux générations qui viennent.
Grand merci Stéphane Bern, et
merci
puis
Denis.
À très bientôt.
À bientôt, cher Denis, une joie de parler avec vous.
Et puis donc, la beauté de ce collège militaire de Thiron-Gardais, donc dans l'Eure-et-Loire. Merci Stéphane Bern. Alors, c'est pas terminé. Ah non, vous restez avec nous. Pourquoi ? Parce que Perche égale quoi ? Eh bien, égale Percheron. Et oui, il nous attend. Il est ni déjà de joie à cette idée-là.
Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux. Ce soir à la brune, nous irons, ma brune, cueillir des serments. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Pour toi, ma princesse, j'en ferai des tresses et dans tes cheveux. Ces serments, ma belle, te rendront cruelle pour tes amoureux.
Non, on va dire que le cheval est plus attachant que le chien. Non. Le cheval est plus froid, mais attention, quand je dis froid, je ne veux pas dire non plus que...
CO2, mon amour ?
Non.
Parce que vous allez peut-être me dire que c'est un cliché, mais le cheval, quand nous lui montons sur le dos, est-ce que nous lui demandons son avis, nous, les humains ?
avec Denis Chessou sur France Inter.
Eh ben oui, bien sûr qu'il est ni donc notre joyeux percheron, blason des contes du Perche, et qui commence son histoire avec les croisades, hein, parce que ce sont les chevaliers qui le ramènent de Terre Sainte, donc des étalons qui sont croisés avec des juments, et hop là, une belle conquête de ce fameux percheron. Nous allons chez Danny Jesberg, donc, qui fait de l'élevage, et puis nous avons l'homme de la situation, Jean-Léo Dugas, un homme qui adore le photographier, le regarder, lui parler, plein de choses. Allez, on découvre ce percheron.
Bon, moi, j'ai pas de sabots, mais on devrait y arriver quand même.
En montant encore 20 mètres.
Ah oui, là, j'étais d'un optimisme béat. Hop.
Alors, vous êtes sur la commune de Saint-Fulgent-des-Ormes.
Ouais.
Nous sommes au lieu dit La Petite Croix, où nous élevons des chevaux percherons depuis presque 20 ans sur ce site. Et puis depuis plus de 25 ans pour ce qui est de mon mari.
Vous les aimez? Ils vous le rendent bien ça...
Oui, tout à fait. Alors, si on a des percherons, c'est parce qu'on les aime. Et c'est une passion. Hein. C'est un cheval qui est beau, puissant, mais qui a une sagesse. Voilà. Je suis arrivée par hasard dans le cheval percheron. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est cette période du printemps où je suis là pour aider aux naissances des poulains. C'est ce qu'il y a de plus beau.
Jean-Léo Dugas, là, nous sommes face à votre passion. Racontez-nous donc cette bête. Là, on s'approche. Effectivement, il est placide. Enfin, ils sont placides. Alors, pourquoi il se plaît ici? Pourquoi ça fonctionne bien?
Alors, je pense qu'il y a une raison essentielle, ce sont les herbages. On est ici, dans le Perche, dans une région montueuse, donc avec des collines. Les collines sont souvent couronnées par un massif forestier, un petit des bois, des restes de l'ancienne forêt d'autrefois, la Silva Pertica, comme on appelait le Perche autrefois. Et il y a dans le bas des vallées avec énormément de cours d'eau et apparemment des pâtures assez extraordinaires qui ont fait que ce cheval du Perche a réussi à devenir célèbre pratiquement sur la terre entière.
Alors ça, c'est très intéressant, parce que c'est un cheval extrêmement voyageur, qui s'est exporté un peu partout, mais quand même, donc, il est rural, il est chevalier, il est moyenâgeux, il est féodal, etc. Puis, à un moment, il y a un truc qui s'appelle la conquête de l'Ouest. Alors ça, racontez-nous, parce qu'il a appris l'américain, il a appris l'anglais, celui-là.
Voilà, alors, on ne l'appelait pas le cheval percheron à cette époque lointaine, on l'appelait, c'était le cheval du Perche, tout simplement. Et ça a été tout d'abord le cheval des diligences. Il faut savoir que au XVIIe siècle, par exemple, eh bien, la plupart des diligences étaient tirées par des chevaux du Perche. Ils étaient beaucoup plus légers et plus petits que les chevaux percherons que l'on connaît maintenant ou que l'on a connus dans l'agriculture il y a quelques décennies. Et puis, sa morphologie a évolué. Il est devenu un cheval, on va dire, agricole. Et là, ça ne demandait plus du galop, mais ça demandait de la puissance, de la force. Et à ce moment-là, eh bien, il a été, dans les années vers 1870, il a été choisi comme moteur par les Américains. Comme moteur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les grandes étendues américaines qui étaient pacifiées après la guerre civile, qui avait duré quand même pas mal d'années, eh bien, il fallait les travailler, ces terres. Et on avait besoin d'un moteur, entre guillemets.
Mais oui, mais il me lèche, mais c'est très bien. Mais oui, mais j'ai rien fait, moi. Qu'est-ce que j'ai fait?
Et donc, eh bien, ces Américains, un certain nombre d'Américains, d'acheteurs, de fermiers, sont venus acheter des chevaux en très grand nombre.
On parle de vous, là. Oui.
Dans les années, par exemple, 1900-1913, eh bien, c'était 3000 chevaux percherons qui partaient chaque année du Perche pour aller dans le Middle West, travailler dans les grandes prairies américaines du Middle West, mais aussi dans les villes pour tirer les transports variés.
Ouais. Leur poids, c'est quoi? Alors, c'est du 800 kilos?
Disons qu'à l'âge adulte, ils vont atteindre 800-850 kilos à peu près. On va peut-être...
On est cerné, là. Là, on est cerné, là.
Allez,
parce que...
Allez.
Parce qu'elles sont jeunes, elles sont très curieuses.
Bah oui.
Actuellement, on n'est plus avec le percheron qu'on a connu, le percheron de nos grands-pères, le percheron agricole. Le percheron, là, a été allégé un petit peu. Dans les nouvelles activités, il y a le débardage, ce que moi j'appellerais plutôt la restauration de nature. C'est-à-dire, il y a des tas d'endroits où eh bien, la machine, la grosse machine, n'est pas vraiment bienvenue parce qu'elle fait énormément de dégâts. Eh bien là, on utilise des chevaux de trait et des chevaux percherons, là où il faut faire attention, où l'on met les pieds pour préserver la biodiversité, préserver l'environnement. Eh bien, on utilise de plus en plus les chevaux de trait et le cheval percheron. On utilise aussi beaucoup le cheval percheron dans la vigne actuellement, partout en France.
Ouais, j'en ai vu en Bourgogne, absolument.
Voilà, on l'utilise beaucoup tout simplement eh bien, parce qu'on est arrivé dans une situation où la motorisation de l'agriculture dans les vignes a fait que le sol est totalement tassé. Il n'y a plus aucune vie dans le sol. Ouais. Et en remettant des chevaux de trait, des chevaux percherons, on fait renaître la vie, toutes sortes de vie dans le sol. Et actuellement, il y a une très forte demande pour le travail dans la vigne avec des chevaux de trait.
Donc maintenant, ils ont cette vocation parce que, évidemment, que quand on regarde certaines photos des omnibus parisiens, c'était les percherons donc, qui les tiraient. Après, les bus, le métro arrive, la RATP, parfait, il n'y a plus de percherons. Et donc, ça a été une déprise. Là maintenant, de nouveau, il y a cette race qui est repartie. Parce qu'il ne devait plus y en avoir beaucoup, non ?
Alors, en 1970, je me souviens qu'il y avait des reportages à la radio et à la télévision sur les races en voie de disparition. Et on parlait du cheval percheron.
En 1968, la préfecture de la Seine a délivré une seule autorisation de circuler pour voitures hippomobiles contre 250 000 environ pour voitures automobiles. Après un mois d'enquête, nous avons retrouvé les derniers irréductibles au progrès, monsieur et madame Chareil, marchands de fromage au marché de Rilly.
On est du temps des Gaulois, nous. C'est vrai.
On est comme dans le temps, on se trouve très bien comme on est.
Un cheval, combien de temps ça vit ?
Oh, ça peut vivre 30 ans, mais à condition d'être à la campagne. La bête est faite pour aller sur la terre, mais pas sur du pavé.
Fatigue-moi.
On a actuellement un retour dans les villes aussi. On a des collectes de déchets, par exemple. Je vois la ville du Mans, dans la ville ancienne, dans la cité Plantagenêt.
Sur mer, Trouville aussi.
Trouville aussi, oui. Trouville, c'est fini, je crois. Ils ont arrêté. Mais on a à peu près 200 à 300 villes en France ou communes qui utilisent des chevaux de trait. Et ce qui est très important, le cheval percheron a toujours été un cheval d'exportation. Il s'est toujours exporté. Donc, il est connu, on peut dire, sur la planète entière. Et il continue à s'exporter. Il s'exporte comme améliorateur de race. Il part actuellement en Chine, en Inde, dans beaucoup des anciennes républiques de l'Union soviétique, par exemple, où on l'importe tout simplement pour croiser avec des races locales plus petites, de manière à donner à ces races un petit peu de...
Voilà, il nous remise. 1, 2, 3, ça y est.
Bon, voilà, je crois qu'on est...
C'est pas mal, on est repéré. Je pense qu'on est repéré. Il n'y a pas de souci. Et alors Valérie, ceux-là, vous savez déjà où ils vont partir ou quoi ? Ils sont déjà...
Ces pouliches, là, on va les garder. On espère en faire de futures poulinières. Ouais. Dans 2 ans, on pourra les faire saillir par notre étalon et on aura un poulain. Vous avez vu la différence entre les pouliches, la couleur de robe. Vous avez des pouliches qui sont gris clair, gris foncé, et puis celle-ci est noire aussi. Elle le restera toute sa vie.
C'est vrai qu'elles sont sympas, quoi. Il y a un mode d'emploi, mais
tout à fait. C'est ce qui a fait que le percheron est parti partout à travers le monde. C'est d'abord qu'il était un animal docile, placide, très très sympathique. Et à cela, il y avait une force, une certaine puissance qui le rendait très, très intéressant partout à travers le monde.
Et c'est normal qu'il y en ait 3 qui aient envie de m'embrasser là sur la joue, parce que je les ai à peu près hauteur de joue.
Dès qu'ils voient des gens un petit peu différents...
C'est ça. Oui, c'est bien, c'est un micro.
Ok.
Oui, c'est là où... Allez, on recule un petit peu là.
Ils sont jaloux.
Allez, c'est ça.
Ouais. Allez.
Oui.
Une poignée de boutonneux passionnés de mythologie me demande comment reconnaître un centaure d'un percheron. C'est simple. Comme nous le raconte Omer Sharif dans l'Iliade, le centaure est un monstre moitié cochon, moitié poisson, alors que le percheron est un animal mi-homme, mi-cheval.
Jean-Léo, coup de cœur avec les... Pourquoi celle-là? Alors évidemment, vous êtes du coin, mais ça aide. Ça, peut-être que vous auriez été en Franche-Comté, c'est aurait été des comptoirs, alors, des Ardennais.
C'est moi, il y a deux choses. Tout d'abord, on va dire ma première percherolle. J'avais 4 ans. 5 ans, mon grand-père était cordier, là, pas loin d'ici, à Avesnes-en-Senois, et il cultivait lui-même son chanvre, et lorsqu'il arrachait son chanvre, il fallait l'emmener à rouillir dans les douves de la ferme fortifiée qui était à 500 mètres. Et pour ça, c'est un voisin qui venait avec sa percheronne et puis un grand tombereau pour charger le chanvre, et c'est là que j'ai vu, à 4 ans, petit okay. bambin...
L'imprégnation s'est faite à ce moment-là.
Et puis ensuite, j'ai parcouru le monde à l'âge adulte, comme photoreporter, ouais. Et puis, un jour, en 1990, j'étais à Mamers, et puis je me suis dit, mais j'ai jamais fait une seule photo ici, dans la Sarthe, dans le Perche, qu'est-ce que je pourrais photographier? Et je me suis dit, tiens, le percheron. J'ai commencé, alors... Pendant quelques années, j'ai fait des reportages lointains, allant en Bolivie ou en Birmanie, revenant 6 mois ici, photographiant les percherons. Et puis au bout d'une dizaine d'années, eh bien, je me suis dit, maintenant, ce sera les percherons. Ah oui. Et j'ai continué à voyager, à parcourir le monde. Je suis allé aux États-Unis, au Japon, en Afrique du Sud, dans tous les pays où on trouve des chevaux percherons. Aller voir ce qu'ils faisaient dans ces pays et comment on vivait avec les percherons dans ces pays.
Alors là, maintenant, on peut dire que la race est sauvée ?
La race percheronne est sauvée, les races de chevaux de trait sont sauvées. Il faut rester vigilant quand même, on n'est pas dans des productions très importantes.
C'est-à-dire que ces chevaux, peut-être, sont déjà en train d'anticiper la fin du pétrole dans 50, dans 100 ans, peut-être plus.
Il y a des écrits, certains scientifiques, en effet, se sont projetés dans une cinquantaine d'années de maintenant et... attribue une part très importante des activités énergétiques aux chevaux.
Joli rayon de soleil là sur nos bêtes. Qu'est-ce que l'on pourrait vous souhaiter, Jean-Léo ?
Ah, moi, bah, écoutez, je vais continuer à vieillir gentiment avec les chevaux percherons. Alors, j'ai coutume de dire, quand on me dit « mais le cheval percheron, c'est quoi ?» J'ai coutume de dire « ah, c'est une corde ». C'est une corde et à un bout, il y a un animal et à l'autre bout, il y a un humain. Et ben, je vais continuer à vivre gentiment, à me partager entre le cheval percheron et les humains qui sont à l'autre bout de la corde, qui sont pour moi ma grande famille maintenant.
Au revoir Jean-Léo Dugard.
Au revoir Denis.
Et puis une caresse, hein, c'était assez marrant parce qu'effectivement ils étaient sur vous pendant l'enregistrement, mais très sympathique donc ces percherons. Merci à ce parc naturel régional du Perche, vraiment une identité hein, par rapport donc à cette région. Et puis bah tenez, la semaine prochaine, ce sera différent. Je vais vous emmener en Moselle avec Victor Noël qui a 18 ans et donc naturaliste. On va prendre un peu comme ça une couleur de bord de Moselle. Merci à Vincent Désir à la technique. Au mixage, ça a été Manon Houssin, Camille Blanès, donc s'est occupée de ce reportage, et Andréa Lechêne l'a formidablement réalisé. Merci aussi donc à l'application Radio France. Pourquoi ? Parce que vous avez Parole de Piaf dessus, donc 6 histoires d'oiseaux, et toujours sur cette application Radio France, vous le savez aussi, vous avez Auprès de nos arbres 5 épisodes consacrés donc aux arbres et aux forêts. Voilà, et ben là, je ne vous ai pas parlé de la forêt de Belém, mais peut-être aussi un jour, parce que là, on n'avait pas forcément le temps. Ouais, c'est comme ça. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end, et puis à très bientôt.